Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le président américain accusé d'avoir détourné l'argent de sa fondation à des fins personnelles, l'État de New York demande la dissolution de la fondation Donald Trump. Vote historique en Argentine, les députés ont voté en première lecture un projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. Le texte doit encore être approuvé par le Sénat. Modeste mobilisation des retraités en France contre la baisse de leur pouvoir d'achat. Ils étaient quelques milliers à Paris, quelques centaines à Dijon, Bordeaux ou Montpellier. Et puis les cigarettiers refusent de lutter contre la pollution engendrée par les mégots. Ils l'ont dit à Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique, qui leur demande de prendre rapidement des engagements volontaires. La procureure générale de l'État de New York intente des poursuites contre Donald Trump. Le président américain est accusé d'avoir détourné l'argent de sa fondation à des fins personnelles. Précision de Pauline Simonet à Washington.
Depuis que le milliardaire est arrivé au pouvoir, les accusations de conflits d'intérêts se multiplient dans la presse et sur les bancs du Congrès. Mais c'est la première fois qu'une plainte est officiellement déposée au civil. Elle émane de l'État de New York où est basée la fondation Trump. Le président est accusé d'avoir détourné de l'argent de cette fondation caritative à des fins personnelles. La procureure de New York utilise des mots durs dans son communiqué. La fondation est devenue un chéquier pour régler les dépenses personnelles de Donald Trump et de ses entreprises en passant par des organisations non lucratives. La fondation aurait également été utilisée pour des dépenses de campagne. L'affaire pourrait coûter à Donald Trump et à ses enfants, également visés, des millions de dollars, mais aussi la dissolution de cette fondation. Des poursuites ridicules, a immédiatement réagi le président sur Twitter, accusant, je cite, les sordides démocrates de New York d'être derrière cette affaire. Pas question de signer un accord à l'amiable, comme cela se fait souvent dans ce type de dossier, conclut le président.
Pauline Simonet à Washington. Les États membres de l'Union européenne approuvent à l'unanimité l'instauration de droits de douane sur certains produits américains. Ils répondent ainsi aux augmentations de taxes américaines sur l'acier et l'aluminium entrées en vigueur le 1er juin. Après le refus de Rome de laisser l'Aquarius débarquer en Italie ce week-end, l'Espagne se prépare à accueillir les 629 migrants que le bateau humanitaire avait recueillis au large de la Libye. Ils sont attendus samedi dans le port de Valence. Une réunion était organisée aujourd'hui dans la ville portuaire entre Carmen Calvo, numéro 2 du nouveau gouvernement espagnol, et le président de la région de Valence. Marie-Hélène Ballesteros, est-ce que vous savez ce qui a été décidé? Est-ce qu'il y a des préparatifs particuliers?
Eh bien Aurélie, l'idée de cette réunion était de s'occuper de tous ces préparatifs pour que l'arrivée des migrants de l'Aquarius au port de Valence se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors, a priori, la flottille qui est composée de l'Aquarius et de deux bateaux italiens devrait toucher terre samedi soir ou vraisemblablement dimanche matin, car la météo est très mauvaise et l'expédition a dû dévier de sa route. Selon Carmen Calvo, les trois bateaux arriveront séparément au port de Valence à quelques heures d'intervalle afin d'offrir une meilleure assistance sanitaire, psychologique et par la suite juridique. D'après la vice-présidente du gouvernement de Pedro Sánchez, l'objectif aussi est de recevoir ces migrants d'une façon respectueuse, ce qui veut dire qu'aucun homme politique ne sera présent à l'arrivée des migrants de l'Aquarius à Valence. Dans un premier temps, donc, ces migrants recevront une assistance sanitaire et par la suite, eh bien, c'est le ministère des Affaires étrangères qui va prendre le relais afin d'analyser au cas par cas la situation juridique de chacun de ces migrants. A priori, les mineurs devraient rester dans la région de Valence. Peut-être vont-ils se diriger vers des centres pour mineurs du côté d'Alicante, tandis que le reste des migrants devrait être réparti par la suite à travers le pays. Rappelons que 12 régions espagnoles et aussi 200 municipalités ont déjà fait savoir ces derniers jours qu'elles sont prêtes à accueillir des migrants de l'Aquarius.
Marie-Hélène Ballesteros en direct de Madrid. Il y a près de 3 ans, la mort par suffocation de 71 migrants dans un camion frigorifique découvert en Autriche avait suscité une forte émotion. Ces réfugiés, syriens, irakiens, afghans, avaient payé entre 1500 et 3000 euros par personne pour se rendre en Allemagne. Ils avaient été retrouvés morts dans un camion abandonné sur le bord d'une autoroute en Autriche. Aujourd'hui, les trafiquants responsables de ce drame ont été condamnés par la justice hongroise à des peines de 25 ans de réclusion, insuffisant pour le parquet qui fait appel. Florence Labruyère.
C'est sans doute l'une des plus lourdes peines prononcées contre des trafiquants d'êtres humains. Mais le chef de la bande et 3 de ses complices échappent à la réclusion à perpétuité requise par le parquet. Selon la cour, il n'y a pas eu préméditation, mais les passeurs ont fait preuve de cruauté. Le jour du drame, le chauffeur du camion avait alerté son patron par téléphone. Les passagers crient pour qu'on leur donne de l'air. Le chef du réseau, un Afghan qui avait le statut de réfugié en Hongrie, avait ordonné qu'on les laisse mourir. S'ils meurent, il faut les décharger dans une forêt en Allemagne. Confronté à ces enregistrements, l'intéressé a plaidé non coupable. J'ai émis des propos irréfléchis. Je ne souhaitais la mort de personne, a déclaré cet Afghan de 31 ans. Mais pour le procureur, le chef et ses complices ont montré une indifférence effroyable et une cupidité sans limite. Le lendemain de la tragédie, alors qu'il savait que des femmes, des hommes et des enfants avaient péri asphyxiés dans le camion, le gang avait organisé un nouveau transport dans des conditions similaires. Cette fois, les 67 passagers avaient échappé à la mort de justesse. Ils avaient réussi à défoncer la porte du véhicule. Le drame du camion charnier restera dans les mémoires. La tragédie avait provoqué une onde de choc en Europe. Elle avait encouragé Angela Merkel, la chancelière allemande, à ouvrir les portes de l'Allemagne à plus d'un million de demandeurs d'asile.
Florence Labruyère, correspondante de France Culture en Hongrie. La Banque Centrale Européenne a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2018. 2,1% contre 2,4% auparavant. Un coup de froid lié aux incertitudes géopolitiques et aux tensions commerciales, explique son président Mario Draghi. La Banque Centrale Européenne annonce aussi le déclin progressif de son programme de rachat de titres financiers. Un programme lancé en 2015 pour enrayer la baisse de l'inflation et de la distribution de crédit dans la zone euro. L'Argentine fait un pas vers la légalisation de l'avortement. Le pays du pape François est encore très influencé par l'Église catholique opposée à l'IVG, mais les députés viennent d'adopter en première lecture un projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, texte approuvé avec une courte majorité. Le reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
Foulard vert autour du cou ou sur la tête pour se tenir chaud et cerne sous les yeux, de nombreux jeunes ont passé la nuit à suivre le débat sur écran géant. Tous recouverts de couvertures, regroupés autour de feux de bois improvisés sur le bitume. Après 22 heures d'attente, l'annonce du vote est donc un grand moment de soulagement. Euphorie pour Paola, 25 ans. Des paillettes vertes sur le visage et les yeux pleins de larmes, Micaela et Julieta, 21 ans, sont très émues.
Estuvo muy peleada, entonces fue sufrimiento constante. No podemos hablar, creo yo todavía.
Es una victoria colectiva y nosotras somos jóvenes, pero hay mujeres que hace 40 años que están luchando por esto y la verdad que eso nos emociona más que nada.
Amatista, 24 ans, elle, est épuisée, mais l'effort a valu la peine.
Estoy acá desde ayer a las 2 de la tarde, no tengo ya voz, no dormí nada. Estuve con Emma toda la noche, muertas de frío, pero fue una mezcla de lágrimas, llanto, emoción.
Dans les jours qui viennent, le projet de loi sera transmis aux sénateurs pour un nouveau débat qui pourrait aboutir en septembre. Mais cette décision des députés est déjà vécue comme une grande victoire pour les féministes argentines et un grand pas pour la société.
Désolée pour l'absence de traduction, c'était Caroline Vic. Vous aurez en tout cas noté que l'ambiance était euphorique dans les rues de Buenos Aires. La limitation à 80 km/h sur les routes secondaires ne passe toujours pas auprès des motards et automobilistes. Annoncée au début de l'année, cette mesure entrera en vigueur à partir du 1er juillet, trop tôt pour les trois sénateurs qui étaient reçus cet après-midi par le Premier ministre Édouard Philippe. Dans le rapport qu'ils avaient rédigé sur le sujet, les sénateurs proposaient au gouvernement de laisser le dernier mot au département. Ils n'ont pas été écoutés et ils préviennent aujourd'hui la colère gronde du côté des élus locaux, Maïwenn Bordron.
C'est une mesure impopulaire. Michel Raison, sénateur Les Républicains de Haute-Saône, n'a même jamais vu ça. Habituellement, dans les dossiers qu'il traite, il y a forcément du pour et du contre. Mais cette fois, les élus locaux se sont prononcés contre à la quasi-unanimité.
Ils prennent ça comme une sorte de punition, parce que ça touche les territoires, évidemment, à qui on a refusé depuis 40 ans de mettre une route à 2x2 voies, d'aménager telle route, une gare qui se ferme, un train. Donc on a un problème d'enclavement dans ces régions-là. Et on est enclavé, on n'a pas de transport en commun. Et ils sentent que sur la route, psychologiquement, ça va être plus difficile à supporter parce que il va y avoir beaucoup de voitures qui, par peur du PV, vont rouler plutôt un peu en dessous de 80, donc le camion va être derrière. Toi, derrière le camion, tu vas t'énerver, avoir tendance à dépasser. Bon, j'ai eu beaucoup d'interlocuteurs, des pompiers, même des gendarmes. Officiellement, ils disent pas ça, mais quand on discute avec eux, ils sont plutôt inquiets.
Les sénateurs dénoncent d'un côté le manque de résultats probants sur l'efficacité d'une telle mesure, de l'autre l'absence de concertation du gouvernement avec les élus locaux sur ce sujet. Jean-Luc Fichet, sénateur socialiste du Finistère.
Je crois que notre Premier ministre ne connaît somme toute pas bien le monde rural, pas plus que le président de la République. Il ne s'est pas vraiment préoccupé de mener des consultations, n'ayant pas du tout mesuré l'impact que cela pouvait avoir.
Et l'impact pourrait être économique, selon lui, dans les territoires ruraux.
L'ensemble des élus de nos collectivités locales bagarrent chaque jour pour essayer de démontrer que, en fait, ils font des travaux importants sur l'accessibilité et que les entreprises peuvent venir s'installer chez eux, elles ne seront pas pénalisées par le temps ni par la distance. Cette disposition-là, psychologiquement, elle est très mal vécue.
Autre inquiétude, qui va financer l'ensemble des aménagements liés au passage à 80 km/h, comme les panneaux de signalisation par exemple? Jean-Luc Fichet rappelle que celui qui commande paie, mais il craint que l'État demande aux communes de mettre la main au portefeuille.
Maïwenn Bordron. Contre la politique du gouvernement, contre la baisse de leur pouvoir d'achat, des retraités sont descendus dans la rue pour la troisième fois depuis le début du quinquennat. Il y avait des manifestations dans de nombreuses villes de France, mais l'appel lancé par 10 syndicats n'a pas beaucoup mobilisé. Vous avez suivi le cortège parisien, Hugo Chinsky.
C'est un cortège un peu clairsemé qui s'est ébranlé d'opéra à 14h30, mais c'est avec conviction que les manifestants ont battu le pavé. Sylvie Patriarche est à la retraite depuis 7 ans. Pour elle, la hausse de la CSG est une véritable injustice.
J'ai donné depuis 20 ans, il y a 7 ans que je suis à la retraite. Depuis 20 ans, j'ai donné et c'est cette partie-là qui s'envole, que je rends au nom de la solidarité. Et là, j'aimerais vous dire, la solidarité, nous, ses parents, nous l'avons jouée à fond. Donc je veux dire, nous dire c'est pour la solidarité, je ne peux pas tolérer les propos de le maire qui dit « mais enfin, aidez vos propres enfants, mais on ne l'a pas attendu ».
60% des retraités sont concernés par cette réforme qui est vécue comme un choc psychologique par les retraités qui ont la sensation de continuer à cotiser pour leur propre retraite. Bernard Gallard touche 1700 euros par mois.
Je perds en gros entre 380 et 400 euros par an par l'augmentation de la CSG. Parce que je suis au-dessus des 1200. Ah bah, si vous voulez, 400 euros par an, grosso modo, c'est deux caddies, quoi. Un peu plus de deux caddies. C'est deux factures de gaz, puisque je suis chauffé au gaz. Donc c'est deux factures de gaz. Ça va me peser sur les vacances que je pourrais prendre avec ma femme. Ça va peser sur le fait que je vais aller un peu moins au restaurant ou un peu moins au cinéma. Donc ça a eu aussi une incidence sur ce que ça rapporte à l'économie, hein, évidemment.
Et un rapport publié aujourd'hui n'a fait qu'accroître leur mécontentement. L'écart entre les revenus des actifs et les pensions de retraite devrait s'accroître lors des prochaines années.
L'association Aide proteste contre les mesures d'expulsion d'étrangers porteurs du VIH. Des militants de l'association de lutte contre le sida se sont rassemblés ce matin devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En théorie, la loi Chevènement de 1998 reconnaît aux étrangers gravement malades qui n'ont pas accès à des traitements dans leur pays d'origine le droit de bénéficier d'un titre de séjour. Mais depuis janvier 2017, le traitement des dossiers d'étrangers gravement malades a été retiré au ministère de la Santé pour être confié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Aide dénonce depuis un durcissement des conditions de l'attribution d'un titre de séjour. Et en un an, Léa Mormin-Chauvac, 24 personnes séropositives se seraient vues refuser un titre de séjour pour raison médicale.
La trentaine de militants de Aide défilent gravement. Un corbillard ferme leur marche funèbre. Devant l'Office de l'immigration et de l'intégration, ils déposent une gerbe ainsi qu'une fausse plaque commémorative sur laquelle on peut lire « Aux morts du sida, la patrie indifférente ». L'association a recensé 24 cas d'étrangers séropositifs menacés d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Une situation inadmissible pour Caroline Isambert, responsable plaidoyer et mobilisation de l'association.
On a des cas particulièrement choquants et tout à fait incompréhensibles, comme un couple de personnes angolaises, toutes les deux séropositives. L'une a été admise au séjour et pour l'autre, ça a été refusé. C'est une décision qui n'a aucun sens. On nous avait promis qu'avec le passage de volet médical à l'OFI, on aurait une harmonisation des pratiques. C'est tout à fait l'inverse qu'on constate.
Au signal, les militants s'allongent tous au sol. Leur but, attirer l'attention de l'État sur ce qu'ils estiment être une dégradation du droit au séjour pour raison médicale. Nicole Saguet, militante séropositive camerounaise, manifeste aujourd'hui pour les autres, après avoir vécu 11 années de galère pour obtenir un titre de séjour.
Il y a des traitements, mais qui a la capacité d'acheter des traitements au Cameroun? Déjà, les gens font le choix de vivre, donc de manger. Quand on a un peu d'argent, on essaie de manger, pas de s'acheter des médicaments. Pour moi, déjà, 20 ans en arrière, ça aurait été « rentre chez toi, va mourir ». Il faut que ça change. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai l'impression que je suis revenue dans les années 2000. Les petits acquis qu'on avait pu avoir avec la lutte, on les a perdus un à un. Dans l'indifférence totale.
Les porte-paroles d'aide ont fini par obtenir un rendez-vous demain avec la direction générale de l'OFI. Ils réclament la régularisation des 24 étrangers malades qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Une association de malades de la thyroïde pointe de troublantes anomalies dans la composition de la nouvelle formule du lévothyrox. Selon l'étude que l'AFMT a financée, la teneur en lévothyroxine, seul composant hormonalement utile du médicament, est gravement inférieure aux spécifications en vigueur. Et l'étude mentionne la présence anormale d'une molécule connue pour ses effets secondaires indésirables. Des déclarations non scientifiquement fondées, réplique le laboratoire Merck, qui ne font qu'inquiéter les patients et déstabiliser la communauté médicale, estime le laboratoire. La collecte des 30 milliards de mégots jetés dans la nature chaque année ne doit plus incomber aux villes, mais aux industriels du tabac. C'est la ferme conviction de Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Elle a reçu cet après-midi des représentants des cigarettiers au ministère de l'écologie, Clarence Rodriguez.
Les industriels du tabac opposent un non catégorique. Ils estiment qu'ils n'ont pas à payer l'addition. Ils ne veulent surtout pas être tenus responsables de la collecte de 30 milliards de mégots jetés dans la nature par des fumeurs inciviques. De son côté, Brune Poirson souhaiterait que les cigarettiers s'investissent davantage et rapidement pour lutter contre cette pollution devenue un véritable fléau. Elle est dans l'attente de propositions et d'actions concrètes de leur part. À défaut d'engagement efficace d'ici à septembre, date de la prochaine réunion, eh bien la secrétaire d'État à l'écologie pourrait les y contraindre en les mettant face à leurs responsabilités. Opposé à tout nouveau prélèvement pour financer le ramassage des mégots, le cigarettier de British American Tobacco propose en revanche de participer au financement d'associations ou d'aider les buralistes à financer et distribuer des cendriers de poche. La France n'est pas le seul pays au monde où le fléau sévit. Des mesures drastiques ont été prises. À Vancouver, par exemple, depuis 5 ans, une brigade est dédiée à la collecte de mégots. À San Francisco, une taxe de 15 centimes d'euros par cigarette est prélevé pour couvrir les coûts imputés au nettoyage des rues. À Paris, les agents de la ville ramassent 350 tonnes par an de mégots. Aussi, Anne Hidalgo, la maire, exhorte les cigarettiers à les recycler. Brune Poirson demeure certes déterminée sur les objectifs, mais avoue ne pas avoir de religion sur les moyens d'y parvenir face à la machine de guerre que représente l'industrie du tabac dans le monde.
Clarence Rodriguez, n'oublions pas la nature et protégeons les abeilles. C'est le message que veut faire passer l'Union nationale de l'apiculture française. Pendant 3 jours, les Happy Days visent à sensibiliser le grand public à la disparition des abeilles et à leur rôle aussi dans la diversité de notre alimentation. Depuis l'automne dernier, la médiathèque de l'agglomération de Béziers accueille 4 ruches dans sa cour. Habituellement, les ruches en ville, où les abeilles se portent plutôt bien, sont situées sur les toits et un peu loin du public. Eh bien, ça n'est pas le cas ici. Écoutez le reportage de Véronique Reberotte.
À l'abri derrière une palissade un peu haute, mais parfaitement visible par de petites vitres situées à différentes hauteurs, adaptées aux visiteurs de toute taille, les abeilles de l'agglo de Béziers, comme souvent dans les villes, se portent bien. Les montrer en pleine activité permet pour Laurent Bacou, directeur des patrimoines de l'agglo de Béziers, de faire réfléchir sur l'utilité des abeilles et ce qui cause leur disparition.
Parler biodiversité, pour parler du rôle des abeilles, dans une région viticole où les méthodes sont encore très conventionnelles, on va dire, les méthodes de culture du vignoble avec pas mal d'intrants, je ne citerai pas les produits, mais bon, il y a pas mal d'insecticides, pesticides qui arrivent dans les vignes, même encore aujourd'hui.
Chaque jour, la ruche de la médiathèque de Béziers suscite la curiosité chez des scolaires qui plongeront ensuite sur l'abeille. De l'inquiétude aussi chez cet habitué des lieux, Bruno. La présence ce jour-là de l'apiculteur référent, Denis Loiseul, lui permettra d'avoir une réponse sur une de ses interrogations.
Bien souvent, je les regarde.
Ah, vous les regardez. Vous êtes un habitué.
J'observe la mortalité parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus qui tombent.
Ah, ça vous inquiète?
Un petit peu quand même, oui. C'est pas les ravages de nos amis de chez Monsanto.
Il a une question à vous poser, ce monsieur qui vient voir régulièrement vos ruches, Denis.
Régulièrement, oui. Et j'observe la mortalité.
Elles prennent les cadavres qu'il y a dans la ruche pour les sortir, pour les amener loin de la ruche.
D'accord.
Et en fin de compte, comme la palissade à l'extérieur du patio est très haute, oui. Par moment, elle tombe, en fait. D'accord. Elle tombe, voilà. Et donc, c'est pour ça que derrière, ça fait...
Je trouvais qu'il y a un paquet, quand même. C'est pas Monsanto?
Non. Si c'est effectivement un problème phytosanitaire, oui. Je le verrai dans la ruche aussi.
Donc le jour où il n'y aura plus d'abeilles, ben vous pourrez pleurer votre monde, vous pourrez pleurer ce que vous voulez, il n'y aura plus rien. L'autre fois, il y avait des enfants là, qui étaient là, c'était comme des fous à regarder ça. Et voilà, vous rigolez, et vous êtes bien. Hein, c'est pas agressif, ça change un petit peu de regarder. Vous savez, ici, on est en Ménardie, donc le climat est un peu pesant à Béziers. Donc un havre de paix ici, oui, ça fait du bien.
La semaine dernière, les ruches de la médiathèque de l'agglo de Béziers ont fait leur première récolte, 40 kilos de miel. Une bonne récolte pour un début.
Véronique Rebérotte avec les abeilles de Béziers. Météo France prévoit un vendredi nuageux et sur le quart sud-ouest de faibles pluies. Il fera 9 à 16 degrés le matin, 20 à 24 l'après-midi, jusqu'à 28 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.